Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Une émission sur les États-Unis en septembre, on peut imaginer ce dont on va nous parler Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Eh bien vous n'y êtes pas Céline, puisqu'en vérité, comme je le disais à Wendy il y a un instant, on s'en va tout de suite au Far West. On va, voilà, grande plaine, cow-boy, nous allons parler du Grand Ouest en compagnie de Nicole Bacharan. L'idée nous a été soufflée via Facebook par ma compatriote Sylvie. Je dis ma compatriote parce qu'elle est de Poitiers, Sylvie. Sylvie qui aime voyager outre-Atlantique, et pour nous mettre dans l'ambiance, je vais commencer par vous raconter cette incroyable histoire du plus français des cowboys de l'Ouest.
Et puis à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Louison sur les origines de la délicieuse crème chantilly.
Eh ben, j'ai l'impression que vous avez, avons tous notre petite idée là-dessus. En attendant, bienvenue au saloon de Rapid City, un cowboy français nous y attend.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Nous sommes en 1885 et la question se pose, quel motif peut bien avoir un jeune homme de 24 ans, français, pour quitter sa famille et son pays et se lancer comme ça à la grande aventure et partir aux États-Unis. Il s'appelle Raymond Ozias Turenne. Il a donc 24 ans en 85. Alors les raisons de son départ sont floues. Jacques Porte, son biographe, nous dit « Il ne fuit pas la misère, il ne subit aucune persécution religieuse ou discrimination politique ». La Troisième République était alors considérée comme la sœur de celle qui avait été fondée en 1787 outre-Atlantique. Tout au plus indiquera-t-il 10 ans plus tard, en se confiant à Paul Bourget, qu'il fuit un régime honni qui ne donne aucune chance à un jeune royaliste pur et dur, jeune royaliste de cœur. C'est vrai qu'on est très très fervent soutien des Bourbons dans la famille de ce jeune homme. Une famille qui est installée depuis plusieurs générations dans le Dauphiné, à Grenoble. Il faut imaginer des avocats, vous savez, cette bonne magistrature de province qui faisait les notables du 19e siècle. Ils habitent rue Saint-Vincent-de-Paul, dans l'ancienne maison du président du Parlement de la province. Et donc, il a été élevé dans tout ce monde, le jeune Raymond. Il est né le 23 novembre 1861. Il y a 5 enfants dans la famille, Charles, Anne-Marie, Elisabeth, donc Raymond, qui est au milieu, si je puis dire, et puis Henri, et encore Claire. Lui est très proche de son frère Henri, avec qui il n'a que 2 ans de différence. Ils font leur scolarité dans le même internat jésuite, à Caouzou, près de Toulouse. Et puis ils vont fréquenter donc le lycée de Grenoble. En 1865, le père de Raymond tombe malade. À ce moment-là, il va devoir réduire lui-même ses activités. Et il y a une forte baisse de revenus dans la famille. Ça pourrait être un début d'explication, ce qu'on appelle un peu des déclassés, vous savez. En 1875, nouveau coup dur, cette fois, c'est le décès de la mère, qui n'avait que 41 ans. C'est à ce moment-là la grande sœur de la famille, l'aînée Anne-Marie, qui a 16 ans, qui va devoir s'occuper de tout le monde. Raymond n'a que 14 ans alors, nous dit Jacques Porte. Il a fait de longues promenades solitaires dans la montagne, tandis qu'Henri, de 2 ans son cadet, s'enferme dans sa chambre. C'est ainsi qu'un jour, Raymond parvient à Racin, petit hameau, situé au-dessus du domaine, au bout d'une route sans issue. Vient de s'y installer un fermier qui commence un élevage de chevaux, 2 mâles et une jument de race anglo-arabe. Le jeune homme lie connaissance et après quelques rencontres, son nouvel ami lui propose, lesté de quelques conseils, de monter. Raymond est au comble du bonheur, une passion dévorante vient de naître, elle ne le quittera plus et le conduira très loin, et oui, elle le conduira jusqu'en Amérique. D'ailleurs, son père va lui offrir un cheval et faire construire une écurie à côté de la maison familiale. Raymond suit ses études, il obtient son baccalauréat, son bachot, comme on disait à l'époque. Il demande un sursis d'1 an avant d'entamer son service militaire. En 82, il entre finalement au 6e régiment d'artillerie de Grenoble. Le voilà ensuite à Valence. Il va quitter la vie militaire au bout d'1 an avec le grade de brigadier. Et tout au long de sa vie, on peut dire que il va semer l'incertitude, il va semer le doute sur ses origines. Il décide de retracer la généalogie de sa famille seulement à l'époque où il est aux États-Unis. Et lui-même, est-ce qu'il trouve bien sa place là-dedans? C'est une autre question. Son livre, qui sera publié en 1895, Paul Bourget raconte, le livre s'appelle « Outre-mer », il raconte sa découverte du Nouveau Monde et il incorpore un très grand nombre de passages qui ont été rédigés par Raymond Ozias Turenne. Le cow-boy français lui a remis un manuscrit retraçant son épopée transatlantique. C'est de là que viennent les citations de Raymond. Et il en a sûrement profité pour enjoliver l'histoire. Après tout, c'est Paul Bourget, bien entendu. Il en profite pour s'octroyer, à lui comme à sa femme, des origines bien plus nobles qu'elles ne l'étaient. Il prétend également avoir été admis à Saint-Cyr en tant qu'officier de cavalerie. Or, je préfère vous dire tout de suite qu'on n'a absolument aucune trace d'un passage quelconque de ce jeune homme à Saint-Cyr. Tout au plus, on a le registre des armées qui nous donne quelques indications sur son aspect physique. Il a les cheveux châtains, les yeux verts, un nez assez fort, il est de taille moyenne, puisqu'il mesure 1m76, ce qui d'ailleurs à la fin du 19e siècle était plutôt une grande taille. Il embarque à Liverpool à bord du Monarch, un paquebot mixte, donc voile et vapeur, avec ses deux amis Adolphe Marion et Éric Combes. Il a rencontré Éric Combes au moment de son service militaire et avec eux, ils emmènent 4 chevaux, 2 percherons qui s'appellent Vigoureux et Vidocq, et puis des Arabes qui s'appellent El Kébir et El Mahdi. La traversée va durer 17 jours, une épreuve difficile pour les chevaux, évidemment, qui doivent supporter l'humidité dans la cale du paquebot. Vous imaginez ce que peut être un paquebot en 1885, évidemment. Raymond se démarque, évidemment, de la plupart des migrants, puisque pour l'essentiel, ils veulent s'installer sur la côte Est, ils veulent faire fortune à New York, pour tout dire, ou à Boston. Lui a décidé de voguer, de filer vers les grands espaces. Il va partir vraiment pour l'Ouest. Ses premiers pas, il ne les fait pas moins à New York, évidemment. Alors, il décrit lui-même les alentours chargés de monde et d'une confusion de voitures et de charrettes, les grands bacs à vapeur dont le colossal balancier monte et descend étrangement sur le ciel, des trains entiers, locomotives en tête, emportés sur des plateformes flottantes, des paquebots de 10 000 tonnes qui descendent ou remontent l'estuaire. Partout le mouvement, la hâte, la confusion, dans un tumulte de beuglements et de sifflets sous des silhouettes gigantesques et sans forme, près d'un quai sordide, encombré de charrois, où les plus énormes steamers du monde, alignés comme des fiacres dans la rue, semblent petits, nous dit-il. Une vraie plume, ce personnage. Alors à l'époque, New York, c'est déjà 2 millions d'habitants sur la seule île de Manhattan. Jacques Porte nous dit que les rues grouillent de monde, les pavés sont disjoints, les façades souvent lépreuses, le bruit des trams, le cri des cochers, cri strident comme celui des chemins de fer surélevés qui traversent la ville à toute vitesse faisant siffler leur vapeur. Voilà, il nous décrit tout ça. Il faut se rappeler que notre homme, notre Raymond, n'est pas un citadin au départ. Hein, et il n'est pas, disons-le, il n'est pas du tout séduit par ce qu'il découvre à New York. Lui, encore une fois, c'est l'Ouest qui l'attire. Lui, encore une fois, c'est l'aventure qui a justifié sa traversée. Vous allez voir que cette aventure, elle est au bout du chemin et qu'il ne va pas du tout être déçu. Nous non plus, d'ailleurs.
Un extrait de la bande originale du film « Il était une fois dans l'Ouest » réalisé par Sergio Leone en 1968. Revenons à notre cow-boy Raymond Ozias Turenne avec vous, Franck Ferrand.
Alors, ce cow-boy et ses 2 compères quittent donc New York. Ils prennent le train jusqu'à la gare de Sydney dans le Nebraska. On est au centre du pays. Ils ont préféré voyager, dans les wagons de marchandises afin de garder un œil sur les chevaux. Ils ont raison d'être méfiants. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y a très peu de chevaux de race aux États-Unis et que lorsqu'on en a, évidemment, ils sont très, très convoités. Le trajet dure 1 semaine. Ils arrivent donc à Sydney. Un ami d'Adolphe Marion les accueille. Il s'appelle Kemish. C'est un Anglais qui possède un ranch dans les Black Hills du Dakota. À cette époque, il s'agit d'un territoire, hein, c'est même pas encore un État des États-Unis. Territoire limitrophe du Canada au cœur de cette Amérique du Nord. Alors, Il va les escorter, ce Kemish, jusqu'à Custer City, qui est une petite ville de 10 000 habitants, située dans l'actuel Dakota du Sud. On est à 450 km de Sydney. La ville tient son nom du patronyme d'un général qui a été tué lors de la bataille de Little Bighorn, vous savez, en 1876. La petite troupe met 2 semaines pour atteindre son but, nous dit Jacques Porte, soit environ 30 km par jour, empruntant des pistes à peine tracées, franchissant des fondrières et des rivières, la Pumpkin, la Niobrara, la Chedron, la Cheyenne, s'arrêtant pour écarter du chemin les arbres abattus ou des rochers éboulés. Chaque soir, la halte est choisie avec soin, si possible près d'un cours d'eau, avec du bois disponible pour faire du feu destiné à cuire les aliments comme à décourager les insectes prédateurs, mais surtout les lynx, les loups et les ours. C'est le début du printemps, les cavaliers découvrent au loin les sommets enneigés des Rocheuses, ils pénètrent dans les Black Hills. Pour Ozias, pour notre Raymond, c'est une extraordinaire découverte. Cette immense étendue déserte où cheminait notre cavalcade nous saisit, dit-il, par une sorte de charme farouche dans lequel entrait beaucoup le sentiment de notre jeunesse et de l'avenir illimité. On reconnaît le style de ces grands récits d'aventure du tout début du XXe siècle. Cette solitude désolée nous exalta au lieu de nous attrister comme avait fait le premier contact avec la foule étrangère. Nous ne sentions plus notre fatigue. Cette exaltation grandit encore avec le voisinage des montagnes lorsque nous commençâmes à monter dans la belle forêt des pins Douglas. Les premières fleurs du printemps pointaient dans les herbes. Partout, les eaux vives et transparentes jaillissaient des fissures du quartz. Le ciel était bleu et léger sur nos têtes. Lorsqu'au loin, ils aperçoivent les baraquements de bois, pour le moins sommaires, dans lesquels ils vont devoir vivre, la désillusion est totale. « Je regardais le cœur battant d'espérance, dit-il. Pourquoi aurais-je honte d'avouer cette minute de lâcheté, la seule que j'ai connue dans mon existence de la prairie ?» Des larmes me jaillirent des yeux subitement, qu'il me fut impossible de contenir. Larmes non plus d'espérance, mais de désespoir. Larmes arrachées par le soudain écroulement de mon rêve et par l'atroce désillusion. Un misérable camp minier apparaissait de l'autre côté de la vallée plus pauvre que le plus pauvre village des Alpes. Et c'était pour vivre là, parmi ces masures, dans ce coin perdu du monde, pour y lutter, pour y mourir, peut-être que j'avais laissé à 3 000 lieues derrière moi notre belle demeure de Château Gaillard et dans celle-ci mes frères et mes sœurs. À leur arrivée, on peut imaginer la surprise des travailleurs de l'Ouest en découvrant les 4 hommes et leurs superbes montures. On vit dans la poussière à l'époque, dans ces zones de frontières, dans ces zones pionnières. Et là, d'un seul coup, il y a ces 4 cavaliers européens qui arrivent sur leurs très beaux chevaux. Les femmes sont intriguées, bien entendu. Les hommes ont l'air assez irrités d'emblée. L'un d'eux, Spurlock, nous dit Porte, qui sera plus tard engagé par le Frenchie, met celui-ci au défi de monter un cheval sauvage, un bronco, qui était au piquet dans le voisinage. Turenne se méfie, l'animal est aveuglé par un bandeau, n'a qu'un licol et une couverture en guise de selle, mais il ne peut reculer. L'apprenti cow-boy sera bien vite projeté au sol, le jeune homme vient de subir le rite d'initiation de l'Ouest, la ratification formelle de cette admission est assurée par une tournée générale au saloon suivie de nombreux autres. Alors, pour commencer, les jeunes hommes vont devoir vivre à l'hôtel, bien entendu, en attendant de trouver le terrain idéal pour s'installer. Pour financer leur projet, ils ont très peu d'atouts. Le seul dont ils disposent, ce sont leurs montures, bien entendu. Souvenez-vous, les chevaux sont très prisés. Ils vont donc pouvoir monnayer les saillies de leurs étalons jusqu'à $40. Ça, c'est un véritable commerce qui se met en place. Et comme ça, ils vont pouvoir vivre 3 mois au cœur de Custer avant de trouver un terrain à 16 miles de là. Ils en signeront l'acte le 25 juillet 1885. Ça va être leur ranch. Ce ranch est situé dans la bourgade de Rapid City. Il s'appelle Fleur de Lys. Je vous ai dit, on est très royaliste chez Raymond. Il faut au nouveau propriétaire de gros efforts pour édifier en une quinzaine de jours avec des planches et des rondins grossièrement équarris une cabane de 2 étages sous un toit de bardeaux, nous dit Jacques Porte. Aucun clou, mais des chevilles de bois. En même temps, ont été mises en place des chorales pour les chevaux qui vont se multiplier au fur et à mesure du succès de l'entreprise. Ben oui, évidemment. Alors revenons au récit qu'a fait Paul Bourget à Outremer. Il décrit dans cet ouvrage les petites maisons de cow-boys qu'il a découvertes lors de son voyage dans le Grand Ouest. C'est Log House, cette petite maison qui s'est construite en poutres mal équarries. Là, en l'occurrence, il parle d'un cow-boy en général, Bourget. Se dresse dans un des coins de la prairie, solitaire domaine qu'un torride soleil brûle en été, que la neige arrose en hiver. Le principal ornement de la salle d'en bas est une gravure représentant la mort de Lincoln, dernier épisode d'une existence commencée de même, et qui est allée, suivant le jeu de mots populaire, « from the log house to the White House », depuis une masure jusqu'à la Maison Blanche, à travers d'âpres efforts de lutte continue, d'amertume toujours renouvelée. Le fermier, lui, ne nourrit pas cette ambition, même pour ses fils. Il voudrait vivre et que la terre payât. Il s'use à cet effort et sa femme y meurt. Mais il faut garder en tête que la prairie reste encore à cette époque une sorte de... Comment est-ce qu'on pourrait dire ? C'est une zone de non-droit, si vous voulez. Si les Français ont signé l'acte de propriété, ils savent très bien que ça n'est pas une garantie en soi, qu'ils pourraient très bien se faire déloger. Le terrain appartenait autrefois à un certain Lame Johnny. Lame, ça veut dire boiteux en anglais. Vous voyez le genre de brigand qu'on voit dans les westerns, évidemment, le gangster. Il s'est fait tuer, ce bonhomme, alors qu'il tentait de dévaliser une diligence à Deadwood, de l'autre côté des Black Hills. Et les apprentis cow-boys craignent une attaque de sa bande qui prétend toujours avoir des droits sur la terre de Lame. En vérité, nous allons voir que ces dangereux personnages ne se manifesteront jamais. En attendant, il faut faire prospérer le ranch, on embauche une vingtaine de bras supplémentaires, et voilà ce que nous dit Turenne. Un pareil métier, dans un pareil milieu, veut des hommes d'une énergie invincible et décidés à tout. Autant dire que la composition d'une équipe dans un ranch ressemble à celle d'un bataillon dans la Légion étrangère de France. Le rebut du monde civilisé se trouve échoué là, à fleur de lys. Nous avions un cuisinier allemand, un cow-boy italien, deux cow-boys français et parmi les Américains, des déclassés tels que Billy, le fils d'un pasteur de Chicago. Ce dernier nous faisait rire aux larmes le soir en nous racontant les souvenirs de son adolescence, passée tout entière dans un de ces collèges mixtes. Oh oui, on les imagine fort bien, les soirées du ranch.
Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous envoyer vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de notre cow-boy français Raymond Ozias Turenne.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Nous sommes au cœur de l'histoire du Far West cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et nous revenons à la vie de notre cow-boy français, Raymond Ozias Turenne.
Alors le travail dans le ranch consiste à élever des chevaux, il faut les domestiquer, et ensuite on les vend bien entendu. Rappelez-vous qu'on est au 19e siècle, que l'attraction animale est encore évidemment extrêmement essentielle. C'est comme s'ils étaient devenus marchands de voitures d'une certaine manière. Les grandes villes de l'Est ont besoin de bêtes pour tirer leurs carrioles et leurs tramways, mais souvent c'est plus à l'Ouest, pas toujours dans l'Ouest, mais en tout cas c'est plus à l'Ouest que les animaux sont élevés. Notre cow-boy doit donc absolument élargir le cheptel du ranch de fleurs de lys. Au printemps 1886, avec une partie de ses hommes, il va faire route vers le Colorado où il fait l'acquisition, tenez-vous bien, de 350 pouliches. Eh oui, il a compris. C'est ça qui est fabuleux avec ce Raymond Ozias Turenne. C'est que, bien qu'élevé en France, bien que né, élevé dans ce Dauphiné, où il a été habitué à des normes européennes, il s'est fait vite et bien fait à l'échelle américaine. Il a compris que là, tout est grand, tout est 350 pouliches. Vous imaginez une transhumance de plus de 700 km, ce qui veut dire 1400 km aller-retour. Ça dure 3 mois. Il faut imaginer les fortes chaleurs pendant la journée, les grosses chutes de température la nuit, puis les vents violents, les orages, la grêle, les animaux dangereux, les nuages de sauterelles. N'en jetez plus, on a l'impression que ce sont les 7 plaies d'Égypte, mais c'est un peu ça aussi l'Ouest américain. Sur le chemin du retour, le convoi doit traverser la nouvelle ligne de chemin de fer. À ce moment-là, le troupeau, 350 pouliches, hein, le troupeau est effrayé, il se disperse, il va falloir essayer de récupérer tous ces gens-là. Ça me rappelle ces espèces de grands westerns que je regardais moi, quand j'étais enfant ou jeune adolescent, où on voyait comme ça cette espèce d'aventure à l'état pur, tout simplement. En 3 ans, le ranch d'Ozias va passer de quelques centaines donc à 4000 chevaux. Il finira même avec 5000 chevaux. Autant vous dire que c'est une affaire qui tourne. Toutes les bêtes sont marquées d'une fleur de lys, ça c'est évident. Un insigne qui ne laisse pas indifférent certains propriétaires terriens voisins qui ont eux aussi un certain nombre de tendances royalistes, on va dire. C'est intéressant, on va y revenir tout à l'heure sur l'appartenance politique des pionniers de l'Ouest. C'est le cas notamment de pas mal de Canadiens français qui sont installés dans la région. Peu à peu, Ozias va créer des liens avec eux. Fleur de Lys devient une sorte de QG où tout le monde se retrouve pour passer de bons moments, pour rompre avec la monotonie qui forcément s'installe dans ces régions un peu désolées. Les distractions ne sont pas nombreuses et le climat est rude, vous l'aurez compris. Les orages sont nombreux, il y a souvent des tornades, etc. Il fait très très chaud l'été. L'hiver, en revanche, on peut descendre jusqu'à moins 20 degrés, vous voyez le genre. Il n'y a pas beaucoup de femmes non plus. La rencontre d'une femme était si extraordinaire dans la prairie, nous dit Turenne, que les chevaux faisaient des sauts de 2 mètres à la vue d'une jupe, et d'ailleurs l'excessive dépense physique ne permettait guère à l'imagination de s'exalter. Oui. La fatigue des muscles abolissait tout le système nerveux. Pour ma part, mon détachement était si total que je ne pouvais même plus reprendre les romans de Maupassant et les vers de Musset adorés autrefois. Ces pages me paraissaient décrire des façons de vivre et de souffrir invraisemblables, inconcevables. Je sentais en revanche grandir chez moi au cours de mes chevauchées solitaires une espèce de poésie intérieure faite d'une communion profonde avec la nature et intraduisible par les mots. « Je m'animalisais avec les bêtes », dit-il. Alors, on a affaire là, on l'a compris, à un auteur, un esprit poétique. Je suis pas sûr que ce soit le cas de tous les cow-boys. Quoique, vous savez, on voit bien Lucky Luke chanter à la fin de chaque album. La fin de l'âge d'or va finir par arriver. En 1889, le ranch prend feu. Dans la région, ça arrive très souvent, bien entendu. Les habitations sont faites en bois, bien sûr. Ozias le téméraire, le travailleur acharné, aurait pu reconstruire Fleur de Lys. Seulement, l'excitation que lui avait procuré l'Ouest au moment de son arrivée n'est plus la même. La situation dans la région a évolué, c'est le développement des chemins de fer, les chevaux sont un petit peu moins indispensables pour se déplacer. D'ailleurs, dans les villes, on va bientôt voir arriver le métro. On a inauguré le premier métropolitain à Boston en 1897. Celui de New York, c'est 1904. Les colons sont de plus en plus nombreux. Le paysage change. Ce sont plus les grandes étendues qu'on voit, mais des parcelles qu'il va falloir peu à peu se partager, pour ne pas dire se disputer. En 1889, ça c'est la date fatidique, c'est un peu le tournant, le Dakota devient un État fédéral. Les fonctionnaires ne sont pas nombreux, mais une taxation du capital est mise en place et les shérifs prétendent à présent faire respecter l'ordre. Non mais vous avouerez, dans quel monde vit-on ? Bonjour Nicole Bacharan.
Bonjour.
On a une belle musique.
Bonjour,
pour vous,
Franck.
Oui, pour vous accueillir.
J'étais en train de rêver. Vous m'avez totalement embarqué dans ce grand voyage.
Eh bien, on va y rester dans ce grand Ouest avec vous. Dans un instant, on va revenir évidemment sur la vie que menaient ces pionniers.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire cet après-midi, c'est le Far West qui est à l'honneur. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Nicole Bacharan, historienne, spécialiste des États-Unis, auteur des Noirs américains, des champs de coton à la Maison Blanche aux éditions Tempus.
Je ne sais pas si c'est l'heure pour regarder un western, mais enfin, c'est ce que nous faisons sur Europe 1 aujourd'hui avec Nicole Bacharan. Alors, je me sens très privilégié, Nicole, puisque vous avez apporté votre nouveau livre avec Dominique Simonet, Les secrets de la Maison Blanche, avec l'estampille top secret sur la couverture. Ce sera publié chez Perrin dans quelques jours. On n'a pas encore le droit vraiment de raconter ce qu'il y a dedans.
Le 25 septembre.
Hein. 25 voilà. Septembre, les
Merci.
Secrets de la Maison Blanche. C'est évidemment l'endroit de la planète qui fascine le plus, la Maison Blanche. Donc il doit y en
encore
avoir des
aujourd'hui,
choses.
Hein, encore aujourd'hui, c'est vrai.
Alors, nous ne sommes pas du tout à la Maison-Blanche. Là, on va faire quelques centaines de kilomètres plus à l'ouest. Pourquoi est-ce qu'on parle de Far West, d'ailleurs ?
C'est l'ouest lointain.
Voilà.
C'est l'ouest lointain. Et c'est vrai que c'est un concept, j'ai envie de dire presque un rêve, qui a évolué au fil du temps, hein, au 18e, début 19e siècle, le Far West, c'était à peu près ce qui était compris entre les Appalaches et le Mississippi. Et puis, à partir des années 1830,
ça va
de plus en plus loin, jusqu'aux Rocheuses et puis jusqu'au Pacifique.
On ira jusqu'à dépasser les Rocheuses, et évidemment. Quels ont été les grands explorateurs, les étapes, vous nous les avez dites, mais les hommes, ceux qui défrichent ?
Les premiers, Lewis et Clark. Les fameux Lewis et Clark que le président Jefferson envoie explorer l'Ouest dans les années entre 1803 et 1805. Et il leur faudra un peu plus de 2 ans et ils vont jusqu'au Pacifique. Et le président Jefferson, à l'époque, a des sentiments très mitigés. Il est curieux, il a vaguement le rêve d'un pays qui irait d'un continent à l'autre. Et en même temps, il a une obsession, la crainte de refaire l'Europe.
Voilà,
l'Europe avec peut-être à l'ouest des États qui seraient indépendants, des États qui deviendraient rivaux des États-Unis, qui seraient sur le pied de guerre.
Ça va être constamment toute la problématique des dirigeants des États-Unis. C'est à cette époque, jusqu'où doit-on aller ? Est-ce qu'on ne risque pas de créer les ennemis qui demain nous abattront, en quelque
c'est
sorte
exactement
il faut
ça.
Contrôler le territoire qu'on conquiert. En fait.
Voilà, et ils ne sont pas très nombreux, d'où l'importance justement d'immigrants qui viendront tout au long du 19e siècle en grand nombre. À partir des années, disons environ 1830, sous la présidence de Andrew Jackson, vraiment l'ambition vers l'Ouest s'affirme. On commence à parler aux États-Unis de destinée manifeste.
Ah voilà.
C'est de cette époque-là que ça date.
Destinée manifeste, c'est-à-dire que c'est comme si l'histoire était écrite et qu'il était écrit que les États-Unis devaient un jour conquérir tout le continent jusqu'au Pacifique.
Exactement.
En fait,
hein. C'est l'idée, au fond, toujours la même d'une mission voulue par Dieu et à laquelle il ne serait pas légitime de s'opposer. Alors au 16e, 17e, c'était l'idée d'une nouvelle Jérusalem, celle des puritains sur la côte Est, qui serait purifiée de toutes les vilainies de l'Europe. La destinée manifeste au temps d'Andrew Jackson, c'est vraiment l'avidité des terres, il faut bien le dire, et cela va avec les guerres indiennes et le massacre des Indiens. Il n'y a pas d'autres termes.
Évidemment, il y a des populations indigènes
qui sont nombreuses,
qui n'ont pas l'intention du tout d'abandonner leur vaste territoire.
Exactement, et ils sont chassés par tous les moyens. Andrew Jackson, c'est l'homme qui chasse les Cherokees, qui eux avaient joué le jeu, qui s'étaient européanisés, entre guillemets, qui les chasse de toute la partie est et sud des États-Unis. Et beaucoup mourront d'ailleurs dans cet exode. Et au-delà de ça, ce sont toutes les guerres avec les Sioux, avec les Cheyennes, avec les Comanches, etc. Avec l'idée américaine à l'époque que ces Indiens n'ont pas construit, n'ont pas labouré, n'ont pas mis de barrières autour de leur terre. Donc, ils n'ont pas leur place, ça ne leur appartient pas.
Ce sont deux conceptions du territoire totalement différentes. On pourrait presque dire, on pourrait parler de planètes différentes. Sauf qu'il y a une des populations qui est nettement plus efficace et plus violente que l'autre. Je me rappelle quand on regardait justement les fameux westerns dont je parlais tout à l'heure, on avait l'impression que les Indiens, donc vous avez parlé des Comanches, des Cheyennes, etc., les Indiens étaient les agresseurs en fait. Ils faisaient peur dans les films. Alors que si l'on regarde le phénomène historique avec un peu de recul et d'objectivité, c'est bien l'inverse qui s'est passé. Ce sont bien les Américains blancs d'origine européenne qui peu à peu ont gagné sur les territoires des Indiens, bien sûr.
Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et même la légende, j'ai envie de dire, de ces Indiens féroces qui menaçaient les pionniers. Il y avait des rencontres désagréables, je ne dirais pas le contraire. Mais c'était quand même très très rare, beaucoup plus rare qu'on ne peut le penser d'après les westerns. Et d'ailleurs, les westerns ont évolué. Ceux qu'on regardait quand
on
était enfant,
ceux des années 50, là, bien
ils
sûr.
Étaient vraiment, effectivement, il y avait les gentils blancs avec quelques gangsters quand même et les féroces Indiens. À partir des années 70, c'est vrai que la vision d'Hollywood et la vision américaine en général a été heureusement beaucoup plus nuancée.
Alors, il n'y avait pas seulement les Indiens. Quand on arrive, plus on arrive vers l'ouest, vers le sud-ouest, plus on va rencontrer également les anciens Espagnols qui sont là, bien sûr. Hein.
Absolument. Tous les grands territoires de l'ouest, la Californie, le Nevada, le Nouveau-Mexique, l'Arizona, etc., étaient mexicain, d'abord espagnol, puis mexicain. Évidemment, il y a tous ces noms espagnols que l'on connaît, San Francisco, Los Angeles, Santa Fe, etc., etc. Et petit à petit, ça a été âprement disputé. À partir de 1846, à partir de la fin de la guerre contre le Mexique, tous ces territoires, comme vous le disiez tout à l'heure, pas encore des États, sont devenus américains, ils appartiennent aux États-Unis.
Donc ça fait partie du décor, si je puis dire, et des populations qu'on rencontre. Les gens qui s'en vont comme ça vers l'Ouest, on peut imaginer que ça n'est pas la meilleure société, forcément. Ce sont des gens qui vont chercher fortune.
Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Moi, j'étais assez fascinée par ce que vous racontiez sur ce fameux Raymond. Oui. Au fond, il cherche la fortune quand même,
ça,
me semble-t-il,
oui.
Mais il cherche l'aventure.
Et la poésie, oui, bien sûr.
Voilà. Et donc, vous aviez, oui, la soif d'aventure, la soif d'action, de transformer sa vie, de
vivre
faire fortune, de vivre à une autre échelle, de découvrir, de ne pas être contraint par sa famille, souvent par ses traditions, etc. Ça en fait partie. L'appât du gain le plus féroce, la fameuse ruée vers l'or en 1849, ça attirait effectivement toutes sortes de gens. Le mode de vie était vraiment extrêmement brutal. Alors c'était l'Ouest sauvage dans sa radicalité, disons.
La civilisation nord-américaine est très douée pour le spectacle, pour la mise en scène, pour ce qu'on appelle sans aucune connotation péjorative, la mythification. Et c'est vrai qu'on a créé une légende du Far West. Quand on voit ce que nous, en Europe, avec l'extraordinaire histoire dont nous disposons depuis plusieurs milliers d'années, nous sommes capables de faire, est-ce que les Américains ont fait avec quelques décennies d'une histoire d'ailleurs assez ténue, c'est stupéfiant. Ils ont créé de grands archétypes, de grands mythes du western. Hein. Je parlais du saloon, il y a toute cette dimension-là, bien sûr.
Absolument, et on le trouve dans la littérature et ensuite, évidemment, au cinéma. Et c'est une construction mutuelle. Le mythe, il est un peu vrai. S'il n'y avait pas une base,
bien sûr, oui. Hein,
ça n'existerait pas. Et le mythe, il grandit des choses qui souvent n'étaient pas bien glorieuses. Mais on a, vous et moi et bien d'autres, je pense qu'on a grandi avec Butch Cassidy, Sundance Kid, Liberty Valance,
et Calamity Jane,
les frères Dalton, et qui ont tous existé. Hein. Jesse James, qui n'était pas forcément... aujourd'hui, bon, on dirait simplement que c'est un tueur en série. Voilà, il y avait un peu de tout. Il y avait aussi des héros, le mythe de la prostituée au grand cœur. Honnêtement, elles avaient peut-être des rancœurs, mais elles avaient quand même une vie extrêmement, extrêmement dure et elles subissaient des violences assez terribles. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi de vrais héros et des familles qui partaient vers l'Ouest aussi pour planter leur ferme. Donc toutes sortes de gens, mais tous inscrits dans cette histoire finalement magnifique d'une nation bénie des dieux.
Voilà, et ce qui évidemment va faciliter le travail des romanciers et des scénaristes et des cinéastes, c'est la quasi-absence de règles. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des zones, je disais tout à l'heure, des zones de non-droit, mais c'est un petit peu ça. Chacun fait sa loi, en quelque
L'absence
sorte.
L'absence de règles, c'est un des grands attraits de l'Ouest. Ça fait peur, évidemment, parce qu'il faut vraiment ne compter que sur soi, d'où aussi cette tradition des armes. On ne peut pas compter sur qui que ce soit pour se protéger soi-même ou protéger sa famille. Mais je crois, et j'ai beaucoup lu de récits, de journaux, de ces pionniers qui partaient vers l'Ouest, souvent des sentiments mitigés dans les familles du côté des femmes qui partaient dans leur jeunesse, donc à l'époque où elles étaient enceintes, où elles accouchaient, enfin c'était dangereux. Mais les hommes, l'idée d'être libérés du carcan à l'époque victorienne,
aussi, hein,
notamment,
sûr,
c'était quand même très très attrayant.
Oui, bien sûr, ça faisait partie des motivations, incontestablement. Vous avez vécu vous-même au Texas, donc vous avez connu
longtemps.
Un peu cette ambiance-là, les grands Stetson, le rodéo, etc.
Et beaucoup de choses n'ont pas changé, je dois vous le dire. D'abord, les hommes s'habillent toujours comme ça. Le gouverneur du Texas, Rick Perry, que j'ai quand même pas mal côtoyé, les bottes en peau d'autruche, la ceinture avec la grosse boucle, le gilet, vous savez, le petit lien autour du... la cordelette autour du col de chemise, le grand chapeau, la chevalière, enfin tout. Voilà. Et également la passion des ranchs, la passion des chevaux, la passion du bétail.
Chevaux, oui, bien sûr.
Absolument. Et tous les ans, à Houston, notamment où j'habitais, mais à Dallas et dans toutes les grandes villes du Texas, il y a de grands rodéos, de grands shows où les cow-boys, parce qu'ils existent toujours, viennent montrer tout ce qu'ils savent faire.
Ce qu'il y a d'extraordinaire dans le destin de notre Raymond Ozias Turenne, c'est qu'il est français. Vous allez nous dire dans un instant, Nicole Bacharan, ce que faisaient ces Français à l'époque, s'ils étaient nombreux, et quelle a été leur postérité.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Nous sommes au Saloon cet après-midi au Far West avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Nicole Bacharan, historienne spécialiste des États-Unis, auteur des Noirs américains, des champs de coton à la Maison Blanche aux éditions Tempus.
Est-ce que vous voulez vous joindre à notre partie de poker,
avec
peut-être
plaisir.
On va finir ça juste après l'émission. Il faut quand même redire un mot du climat. Et surtout de ce décor naturel gigantesque. Moi, j'ai pas été beaucoup au Far West, mais le peu que j'en ai vu m'a marqué à vie, si je puis dire. C'est-à-dire que les dimensions sont absolument démesurées pour un Européen. On peut même pas vraiment se faire une idée, en fait. Hein.
Ah non, il faut vraiment y aller. Et ça change aussi toute la psychologie des gens. Hein. Vous parliez de la découverte par Raymond de ces immenses territoires et de la manière dont il se sent transformé de l'intérieur. Alors c'est vrai que le territoire où il était a été depuis divisé en parcelles, etc. Mais si on va plus encore à l'ouest, et notamment dans les parties désertiques qui ne peuvent pas vraiment être domestiquées en quelque sorte, rien n'a changé.
Non, c'est vrai.
Rien n'a changé.
D'entrer dans un saloon au Nevada aujourd'hui, dans des coins paumés dont on peut même pas imaginer qu'ils existent,
absolument.
On a l'impression d'être au 19e siècle. Hein. C'est, bah, sauf qu'il y a des néons, quoi. Mais enfin...
Oui, il y a des voitures, des voitures, mais pas beaucoup, voilà. Encore. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Les gens sont en fait assez isolés, et tous ces paysages extraordinaires, vraiment le Grand Canyon, Monument Valley, Death Valley, la vallée de la mort,
oui,
où pas mal de pionniers.
C'est étendu de sel absolument extraordinaire.
On trouvait la mort, c'est fascinant et c'est aussi très très dangereux. Vous parliez des animaux sauvages, même en Californie où j'ai la chance de vivre une partie de l'année, même à Stanford, à côté de l'université la plus civilisée du monde, on vous prévient de la manière de se conduire si vous croisez un puma ou un coyote.
Il y a même des panneaux pour faire attention aux ours, hein, par exemple.
Exactement, absolument. Et ça n'est pas une plaisanterie. Les hivers sont très froids dans la plupart de ces régions de l'Ouest, je ne parle pas de la côte, mais à peu près tous les autres territoires. Et les hivers sont, j'ai parlé des hivers, donc très froids, pardon, je m'en mêle
les
dans mes saisons. Les étés absolument torrides. Il n'y a pas d'eau, il y a des serpents à sonnette.
Il ne faut jamais avancer avec une seule
incroyable.
Voiture, au cas où vous tomberiez
absolument.
En panne, il faut toujours avoir une deuxième.
Tout ça, au fond, n'a pas changé.
Ouais. On va parler des Français dans un instant. Un mot peut-être de l'or, parce qu'il y avait cette richesse souterraine, cette richesse minière qui a créé ce qu'on a appelé le Gold Rush 1849, hein, la ruée vers l'or.
Ça a été, en langage d'aujourd'hui, ça a été énorme.
Énorme.
C'est-à-dire que c'est pas un phénomène américain, même si c'est d'abord américain, mais c'est un phénomène mondial. Les gens viennent réellement de partout, et même beaucoup de Français, alors que, on le sait, les Français n'aiment pas quitter leur pays. Il y a toujours des aventuriers comme Raymond, mais ce sont rarement des phénomènes importants. Mais il y a environ 40 000 Français qui gagneront la Californie et les territoires de l'Ouest dans ces années-là. Ils viennent évidemment d'Amérique latine, ils viennent de toute l'Europe, j'oubliais de le citer, ils viennent de Chine, ils viennent du Japon, tout ce monde-là ne s'entend pas forcément très bien. Il s'agit de gratter l'or le plus vite possible. Les conflits se règlent, comme vous pouvez l'imaginer, à coups de revolver. C'est un monde vraiment extrêmement féroce, mais il y a de vraies fortunes qui ont été bâties dans ces années-là.
La présence française, elle remontait à la Louisiane, bien entendu. Hein. C'était ça,
ah,
au
oui,
départ.
Absolument.
C'est Cavalier de la Salle.
Cavalier de la Salle qui descend le Mississippi au début du XVIIe siècle, dans les années 1630, et qui arrive près de l'embouchure du fleuve et qui déclare eh bien, que le territoire, tout simplement, appartient en entier à la couronne de France. Oui. Donc, Louisiane, n'est-ce pas, en hommage à Louis XIV. Et dans les années qui suivent, la Nouvelle-Orléans sera fondée avec un nom qui rend hommage à Philippe d'Orléans, régent de France. Et c'est une autre Amérique qui se développe avec des Espagnols, des Français, beaucoup de créoles des Antilles, des esclaves noirs, évidemment. On est extrêmement loin de l'Amérique puritaine de la côte Est, d'autant plus loin que les Français, que l'on appelle alors les coureurs des bois, et qui sont des trappeurs et qui font le commerce des fourrures, se trouvent joints, si j'ose dire, à des tas de jeunes filles envoyées de la métropole et qui sont quand même pour l'essentiel des prostituées. Oui. Donc les épouses
ont été ramassées, ont littéralement.
Ah oui, vraiment ramassées sur les quais de la Seine et autres. Les épouseuses, les filles à la cassette, on disait aussi, puisque le roi de France payait leur dot. Donc là, on a un tout autre ouest. Et tout cet immense territoire qui allait de la Nouvelle-Orléans jusqu'au Grand Lac, et d'est en ouest, du Mississippi jusqu'aux Rocheuses, donc un tiers du territoire actuel, et bien tout ce territoire a été acheté très finement par Thomas Jefferson à Napoléon qui avait besoin d'argent.
Oui, on avait raconté d'ailleurs ici même la vente de la Louisiane.
Absolument.
Ça a été quelque chose d'inouï. Alors ça, c'est pour les racines françaises des États-Unis. Mais il y a eu des Français qui ont continué à émigrer. Vous dites les Français n'aiment pas beaucoup voyager. En ce moment, c'est pas le cas, hein, puisqu'il y a une émigration massive comme on n'a quasiment jamais vu dans l'histoire de France. D'ailleurs,
bon,
ça, c'est un tout autre sujet. En tout cas, à l'époque, il y avait quand même un certain nombre d'entrepreneurs, un certain nombre de chercheurs, etc., qui ont commencé à vouloir voyager. Quand je dis à l'époque, c'est dès le premier tiers du 19e siècle.
Ah, tout à fait.
D'ailleurs, on a vu le futur roi Louis-Philippe lui-même.
Bien sûr, vous aviez, comme on le disait, les aventuriers, les chercheurs d'or, les jeunes gens qui voulaient voir le monde, en quelque sorte.
Oui, voilà.
Et puis aussi beaucoup des opposants politiques. Alors, soit des gens qui étaient menacés, je pense notamment à Chateaubriand, par exemple, dont une partie de la famille a quand même fini sur l'échafaud, donc qui avait fui la France de la terreur quand il était encore adolescent. Je pense aussi, par exemple, à des royalistes qui n'appréciaient pas particulièrement la République française et qui, au fond, se sentaient plus libres dans la République américaine parce que c'était pas leur problème. Ils n'y étaient pour rien et ils avaient le sentiment de pouvoir inventer leur vie d'une manière, au fond, plus ouverte qu'ils n'auraient pu le faire en France.
Notre Raymond Ozias Turenne, c'est un peu ça, non?
Je pense. Hein.
Il était vraiment né dans un milieu très royaliste. Alors c'est vrai que la Troisième République n'était pas un régime oppressant, c'est même le moins qu'on puisse dire, mais les vrais royalistes de souche, à partir des années 1877-78, ils comprennent qu'ils n'auront pas leur place dans ce régime-là. Et donc, ils sont peut-être plus tentés que d'autres de partir.
Et c'est vrai que le parcours de Raymond Ozias Turenne est très symbolique de ce que vivent les immigrants. Il part à l'aventure, il part mécontent du régime politique en France. Il devient un véritable Américain dans tout son fonctionnement, puisqu'après le ranch et les chevaux, il sera banquier, un banquier qui aura beaucoup de succès, citoyen américain. Mais quand la guerre de 14-18 éclatera, il demandera à ses fils de s'engager. Ils s'engageront d'ailleurs au Canada, puisque les Canadiens sont intervenus tout de suite, alors que les Américains ne sont arrivés qu'en 1917. Et en même temps, il mourra aux États-Unis. Ses fils épouseront de vraies Américaines. Et on peut penser, je crois, que ses petits-enfants ne parlaient plus le français. À la deuxième génération, tout le monde est totalement Américain.
Oui, c'est ça. Ça se dilue très vite. C'est aussi le secret de ce melting pot américain, bien entendu. Le trajet, l'itinéraire, la vie et le destin de ce cow-boy français, hein, donc de ce Raymond Ozias Turenne, il est raconté par Jacques Porte dans un petit ouvrage chez Vendémiaire qui s'appelle « Itinéraire d'un cow-boy français » dont nous nous sommes plus que très largement inspirés pour raconter cette histoire d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des Français qui, alors encore un peu plus tard, vers la fin, après la ruée vers l'or, dans les années 1890, même encore en 1900, continuent à s'installer aux États-Unis, notamment dans l'Ouest américain?
Vous avez toujours les vrais entrepreneurs, au fond, qui partent. Et vous parliez de ce qui se passe aujourd'hui. Moi, quand je suis dans la Silicon Valley, donc près de San Francisco, je suis frappée de voir que les motivations sont les mêmes. L'aventure, la liberté, l'envie de faire fortune, ce sont des choses que l'on retrouve à toutes les époques.
On a l'impression, c'est peut-être pas une impression d'ailleurs, que les États-Unis qui pendant tant de décennies, on pourrait presque dire de siècles, ont eu les yeux rivés par-delà l'Atlantique vers l'Est, sont en train de se retourner vers l'Ouest et qu'ils regardent surtout la Chine et les Chinois en ce moment. Est-ce que c'est une idée ou est-ce que c'est une vérité?
Ah, c'est en grande partie vrai. C'est vrai que quand on est dans l'Ouest des États-Unis, on se sent très très loin de l'Europe. On sait qu'on a un président à l'heure actuelle qui n'a aucune racine européenne. Les immigrants les plus nombreux viennent d'Amérique latine, viennent évidemment d'Extrême-Orient. Le commerce avec la Chine, mais aussi le Vietnam, l'Indonésie, l'Inde, etc. est absolument fondamental. Mais quand même, il reste au fond le fait que l'Europe et les États-Unis, ce sont des démocraties et qu'on n'est pas si nombreux.
Ça,
et qu'il vaut mieux parfois se serrer les coudes.
On ne les montre pas dans les westerns, mais il y avait des Chinois au temps du Far West, hein, cela
absolument.
Dit.
Absolument. Hein. Il y en avait même
ils
beaucoup.
Ils étaient présents, en fait.
Pas comptabilisés comme les autres, parce que ils étaient vraiment extrêmement mal considérés, parqués à l'écart. Ils sont venus pour la ruée vers l'or. Ils n'avaient pas le droit d'amener aucune famille. Donc, il y avait la mafia chinoise qui a porté des légions de jeunes filles prostituées dans les pires conditions. Mais ils n'avaient pas le droit non plus, les Chinois, de devenir citoyens américains. Et outre la ruée vers l'or, le travail dans les mines, ils ont construit en grande partie le fameux train transcontinental.
Plusieurs de nos auditeurs nous demandent où l'on peut trouver des documents, des livres, des tableaux, des gravures sur le Far West en France et notamment à Paris. Vous avez des... Il y a des adresses, Nicole Bacharon, il y a des endroits.
Il doit y en avoir. Je vous avoue que ne me viennent à l'idée que des adresses américaines. Pardon, si je dis, chers auditeurs.
Évidemment.
Je pense au musée à San Francisco, à Washington. Mais je suis absolument certaine qu'on doit trouver en France. Je vais chercher.
Et Patrick nous demande, il dit George Catlin, le peintre des Indiens.
Oui.
N'a-t-il pas été une des rares personnes à comprendre quelle destruction de richesse était provoquée par cette invasion des vachers et autres cow-boys, nous dit-il.
Mais il a totalement raison, et c'est vrai que les cow-boys, ce sont des vachers. Alors c'est beaucoup moins sexy quand on le dit
c'est
comme ça.
C'est ce que ça veut dire au sens propre.
Voilà.
Hein.
Et il y a eu aussi, vers la fin du 19e siècle, des photographes américains qui vraiment se sont lancés avec tout leur matériel extrêmement lourd à l'époque sur des mulets pour répertorier au fond ce qu'était encore la vie de l'Ouest sauvage et des Indiens qui vraiment ont eu un bien, bien triste sort.
Merci beaucoup Nicole Bacharan.
Je rappelle
donc le titre de l'ouvrage de Jacques Porte chez Vendémiaire, Itinéraire d'un cow-boy français, avec une belle photo absolument authentique de Raymond Ozias Turenne en couverture. Elle est presque drôle la photo. Et puis, bien sûr, votre prochain livre dont vous viendrez nous parler ici avec Dominique Simonet, Les secrets de la Maison Blanche. Ça sortira chez Perrin, vous nous dites le 25 septembre. Voilà, merci beaucoup Nicole.
Merci à vous.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez, Franck Ferrand, à la question de Louison sur les origines de la crème chantilly.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Louison. Elle nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission. Et elle aimerait que vous reveniez sur l'origine de la délicieuse crème chantilly.
Alors, quand on parle de ça, généralement, je pense que très nombreux sont nos auditeurs qui s'imaginent que la crème chantilly a été inventée à Chantilly par un certain François Vatel. Vous avez vu le film extraordinaire Vatel qui raconte cette fête inouïe qui a duré pendant 3 jours au printemps 1671 lorsque le prince de Condé, le grand Condé, reçoit Louis XIV à Chantilly avec des fêtes inouïes. Vatel, c'était le maître d'hôtel, c'est-à-dire en vérité, c'était l'organisateur des fêtes. Il ne faut pas l'imaginer en train de faire lui-même la cuisine dans les offices de Chantilly, bien entendu. Bon. Vatel a un peu raté son coup dans toute cette affaire. Vous vous rappelez ce qui s'est passé. D'abord, il a manqué ce qu'on appelait le rot au cours du premier grand souper. Le rot, c'était dur, toutes les viandes rôties qui sont arrivées, pour certaines pas assez cuites, d'autres trop froides. Enfin, c'était pas bien. Bon. Et puis, le troisième jour, alors là, c'est encore pire que ça, c'est la marée qui vient à manquer. Alors là, c'est dramatique. Vatel est tellement désespéré devant ce retard de la marée, parce qu'en fait, elle va arriver après, trop tard, malheureusement, qu'il va se jeter sur sa propre épée et se suicider. Hein. Il ne survit pas à ce scandale. Et l'on dit que c'est à cette occasion que, manquant également de crème, décidément, ils avaient avaient mal fait leurs courses quand même. Il a fouetté de la crème et que c'est devenu la crème chantilly. Ben, pas du tout, en fait. La crème chantilly, elle existait. En tout cas, la crème fouettée, elle existait déjà depuis longtemps. On en a des traces à la cour de Catherine de Médicis. On en a toute une description dans le recueil de Nicolas de Bonnefond en 1654. Mais le terme même de crème chantilly, il va naître bien plus tard. Juste avant la Révolution, on est en 1784. C'est Louis-Joseph de Bourbon, un autre prince de Condé, qui reçoit effectivement au château de Chantilly. Et là, sur le menu, figure incontestablement le terme crème chantilly. C'est donc bien, bien après Vatel. Bonjour Marion Ruggieri.
Bonjour Franck, vous allez bien ?
Mais oui, très bien.
Beautiful chemise.
Merci.
Alors Franck, aujourd'hui nous recevons un écrivain qui fait très peu d'émissions, qui accepte très peu d'invitations, c'est Emmanuel Carrère.
Oh bravo.
L'auteur du Royaume aux éditions POL, qui est déjà, d'ores et déjà, avec Valérie Trierweiler, le best-seller de la rentrée littéraire. Et il sera avec nous de 3 à 4.
Vous êtes une jeune femme de goût, mais personne n'en doutait. Merci beaucoup Marion.
Que on c'est dit de manière perfide.
Dans un instant, et puis nous nous retrouvons lundi, Céline.
Oui, avec grand plaisir, Franck, à lundi.